Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
Galère, galère, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, émission Livres et Amis du 17 novembre avec Françoise pour les lectures et Dominique. Et aujourd'hui aussi, un retour à la vie politique, économique et sociale. Après la belle parenthèse littéraire la semaine dernière autour de Le Clésio et la ritournelle de la fin, ces longues phrases qui bercent, qui envoûtent, eh bien aujourd'hui, un écrit précis aux termes concrets et incisifs. Le président des ultra-riches, écrit par Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, paru en 2019 aux éditions La Découverte. Président des ultra-riches, toujours d'actualité, bien sûr, hélas, puisque sous-titré « Chronique du mépris » de classe dans la politique d'Emmanuel Macron. Les auteurs, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, sont des sociologues, anciens directeurs de recherche au CNRS, qui, dans ce livre, comme dans leur précédent d'ailleurs, documentent et analysent depuis 30 ans les fractures sociales en France. Ils ont écrit « Dans les beaux quartiers » en 1989, Grande fortune, dynastie familiale et forme de richesse en France en 1996, ainsi que La violence des riches, chronique d'une immense casse sociale en 2013. Et plus récemment, le dernier livre, en fait, qui est un peu le précédent de celui-ci, Le président des riches, enquête sur l'oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy. En fait, on leur doit donc ces livres et d'autres, mais c'est vrai que la référence à Nicolas Sarkozy, c'est important, puisqu'il avait dit « Macron, c'est moi, en mieux ». Et nos auteurs, eux, ont corrigé « Non, c'est mieux, sûrement pas, c'est en pire ». Donc leur enquête confirme la terrible dérive oligarchique du pouvoir, supposé démocratique et républicain, en France. Leur livre est donc un rapport d'enquête, il établit des faits. Et on peut revenir sur son écriture avant d'en donner, comme d'habitude, de larges extraits.
Emmanuel Macron n'apprécie pas du tout d'avoir hérité de l'appellation « président des riches » que nous avions introduite en 2010 avec notre enquête sur Nicolas Sarkozy. C'est une invention de mes opposants et des commentateurs, a-t-il rétorqué devant ses conseillers. Mais personne ne peut me relier à cette image. En découvrant ces propos entre deux tartines un matin d'automne 2017, nous y avons vu un défi et nous avons décidé de répondre à l'invitation qui nous était ainsi indirectement lancée. Quoi qu'en dise Emmanuel Macron, il ne s'agit pas là d'une simple représentation médiatique, d'une image déconnectée du réel, d'une coquille vide et vouée à le rester. Ce lien entre l'image et la réalité, qu'il prétend introuvable, nous nous proposons au contraire de l'établir à partir des faits.
Donc, des faits, oui. Et ces faits, de quoi s'agit-il? En fait, c'est bien montrer, au-delà de l'affirmation, qu'Emmanuel Macron n'est pas le président des riches, mais qu'il est bien le président des ultra-riches. Et s'il s'agit de le montrer, donc, par des moyens économiques et sociologiques, en croisant le contenu de sa politique sociale et économique avec sa trajectoire socio-biographique et le maillage oligarchique de son pouvoir. Donc, la première partie du livre s'intitule, comme évidemment le calembour bien connu l'a très vite dit, non pas le président de la République, mais le méprisant de la République. Le méprisant de la République et les cadeaux aux riches. Et puis, au-delà de ce mépris des macronades, qui comprennent, alors qu'il est encore ministre de l'économie, on verra donc au fur et à mesure les différentes mesures législatives qui ont été prises très vite par Emmanuel Macron et qui, en effet, confirment au fur et à mesure des textes ce statut de président des ultra-riches. D'abord, les macronades.
Ce discours de mépris, analyse l'écrivain Édouard Louis, renvoie ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un costume à la honte, à l'inutilité, à la fainéantise. Il actualise la frontière violente entre les porteurs de costumes et les porteurs de t-shirts, les dominés et les dominants, ceux qui ont l'argent et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus.
Alors, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de deux remarques qu'avait faites Emmanuel Macron. D'abord à des grévistes à Lunel dans l'Hérault, à qui il avait dit « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt, la meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. » Et une remarque qu'il avait faite, juste élue, au cours d'un discours fleuve le long des voies de la gare d'Austerlitz, le nouveau président avait dit « Une gare, c'est un lieu où on croise des gens qui réussissent, et des gens qui ne sont rien. » De la même façon, il avait dit dans une vidéo diffusée par son service de la communication « On met un pognon de dingue dans les minima sociaux, on met trop de pognon, on déresponsabilise les gens. » Donc en fait, dérapage plus ou moins assumé ou formule calculée à l'avance, les provocations verbales d'Emmanuel Macron sont cohérentes.
Elles expriment à la fois la personnalité d'un dominant convaincu de sa supériorité et la violence d'une politique de classe, car sous les mots, il y a la réalité d'une action, une offensive lancée face aux classes populaires et aux acquis de leur lutte, où les premières sont désignées comme des coupables à mater et les secondes comme des fardeaux à supprimer.
Eh oui, c'est simple. Les classes populaires sont des individus à mater, les acquis sociaux sont des fardeaux à supprimer. Et on va à la page 14.
L'histoire n'est pas le seul fait des grands hommes, mais des rapports de force entre les classes sociales. Les combats pour le droit au logement en font partie intégrante, tout comme l'ensemble des luttes menées par les moins favorisés qui ne peuvent rien attendre de ceux dont le seul but de leur passage éphémère sur cette terre est le pognon, décliné en avoir, compte bancaire, valeur mobilière ou immobilière.
La politique de la droite, c'est bien ce que mène Emmanuel Macron. C'est la défense des possédants. Nos auteurs l'analysent dans un chapitre qui accumule les preuves de « un pognon de dingue pour les riches ». Et d'abord, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et puis d'autres mesures que nous verrons après.
Alors que la réforme de l'ISF ne devait intervenir qu'en 2019, elle fut votée beaucoup plus tôt que prévu. Au tout début du quinquennat, le 12 octobre 2017. Cette accélération du calendrier s'explique par la pression des milieux d'affaires. L'empressement mis à leur céder en fera le péché originel de la présidence Macron et la mère de toutes les batailles. Le projet de loi de finances, PLF, pour 2018 remplace donc l'ancienne ISF par un impôt sur la seule fortune immobilière, IFI. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, issu de la droite, s'est réjoui de la disparition d'un totem idéologique vieux de 35 ans. Mais l'enjeu était loin de n'être que symbolique. En faisant sortir les valeurs mobilières, ce qui inclut les actions en bourse et les obligations, de l'assiette d'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune, Emmanuel Macron a fait un formidable cadeau aux plus riches, dont les patrimoines sont composés tout en haut de la pyramide à plus de 90% de ses produits financiers. L'assurance vie, allons page 18, malgré ses angles morts, l'ISF n'était pas aussi insignifiant budgétairement que certains l'affirment. Il a ainsi rapporté près de 5,4 milliards d'euros en 2017. À mettre en balance avec les 800 millions d'euros annoncés pour son successeur, l'IFI. Soit un manque à gagner de 4,6 milliards, un montant qui, pour donner un ordre d'idée, excède le budget annuel du CNRS, qui est de 3,3 milliards d'euros en 2015. Autre conséquence, celle-là moins attendue, l'effondrement des dons aux associations caritatives. Dans l'ancien dispositif, ceci était déductible de l'ISF. Cet avantage sonnant et trébuchant ayant disparu, la philanthropie des grands bourgeois fond comme neige au soleil. Si le don permet d'accéder à une niche fiscale en même temps qu'à une niche de légitimité, cette dernière ne fait pas le poids quand l'appât du gain disparaît.
Eh oui! Donc, voyons de plus près, deuxième cadeau maintenant immédiat aux riches, la défiscalisation des revenus du capital, ou plutôt une moindre fiscalisation, puisque on va inventer, enfin disons, les conseillers de M. Macron et lui-même vont appliquer ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique.
Outre la suppression de l'ISF, Emmanuel Macron et les siens ont procédé à la création, moins connue du grand public mais elle aussi très importante, d'un prélèvement forfaitaire unique, PFU, sur les revenus du capital. De quoi s'agit-il ? Auparavant, un actionnaire percevant des dividendes ou un épargnant touchant des intérêts les déclarait sur ses revenus, qui étaient ensuite imposés selon la tranche à laquelle il appartenait. Conformément au principe de la progressivité de l'impôt, les contribuables les plus riches étaient assujettis à un taux marginal plus élevé, 45% pour la fraction de leurs revenus supérieure à 156 244 euros, que les contribuables les plus modestes, 14% pour la fraction de revenus comprise entre 9 964 et 27 519 euros. En rupture complète avec cette philosophie, le PFU établit un impôt à taux unique. Que vous soyez Bernard Arnault ou Xavier Mathieu, ce que vous rapportent vos placements financiers, pour peu que vous en ayez, est désormais imposé à même hauteur. Mais quel est au juste ce taux d'imposition ? Les experts des plateaux de télévision ont abondamment relayé les éléments de langage de la majorité, répétant à l'envi que cet impôt forfaitaire sur les revenus du capital était de 30%. Il s'agit d'une grossière manipulation des chiffres. Car on oublie de préciser que ces fameux 30% comprennent le prélèvement social, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie et le prélèvement de solidarité, la CRDS et la CSG, soit 17,2%. L'impôt forfaitaire en tant que tel n'est donc que de 12,8%. Le diable, comme toujours, se cache dans les détails. Cela signifie que le plus mal payé des contribuables paie davantage en impôt sur le revenu, sur chaque euro de salaire reçu, 14%, que le plus riche des actionnaires sur chaque euro de ses dividendes perçus, 12,8%. Pour mieux faire passer la pilule du PFU, on l'enjolive donc en comptabilisant les prélèvements sociaux pour la fiscalité du capital, alors qu'on ne le fait pas pour celle des salaires. À la faveur de ce tour de passe-passe, les taux d'imposition sur les flux des valeurs mobilières apparaissent ainsi comme relativement élevés, tandis que ceux sur les salaires seraient presque modestes, ce qui est faux. Avec ces deux premières mesures, les riches sont doublement gagnants, comme nous l'a expliqué l'économiste Liem Hoang Ngoc au cours d'un entretien.
Cette baisse forfaitaire de l'imposition du capital coûtera 1,3 milliard d'euros à l'État par an. Des économistes, en effet, parlent de 4 à 5 milliards. Les estimations varient, mais il est sûr que pour les riches, le bonus est de taille. Selon la Commission des finances du Sénat, 44% du bénéfice total lié à la mise en place du PFU serait capté par le pourcent des ménages dont le revenu est le plus élevé. Le pourcent des plus riches de la population. Cadeau, donc, aux ultra-riches. Et l'argent que l'État ne prend plus aux riches, bien sûr, il va bien falloir le trouver ou ne pas le donner par ailleurs. Pensez à celui qui manque pour la santé, pour l'éducation, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Et voyons maintenant les cadeaux aux entreprises. Chirac avait baissé l'impôt sur les bénéfices des sociétés de 50 à 33%. Et autre engagement du président Macron,
faire progressivement baisser l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% à l'horizon 2022. Cette ristourne faramineuse représenterait à terme une perte de 11 milliards d'euros pour les finances publiques. Mais la pérennisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, va coûter plus cher encore aux contribuables.
Oui, en fait, il s'agit d'un dispositif un peu complexe de crédit d'impôt qui doit favoriser l'emploi. Et qu'en est-il en fait ?
Selon la fameuse théorie du ruissellement, arroser ainsi les riches se justifierait par des effets de retombées positives en contrebas sur l'échelle sociale. Alléger les charges, nous serions-nous depuis des décennies, favoriserait l'investissement et créerait des emplois. Fort de cette foi, les gouvernements successifs ont distribué aux plus riches et aux entreprises des milliards d'euros sans contrepartie ni contrôle. Mais tout ceci pour quel résultat ? 5 ans après la mise en place du CICE, les études ont du mal à faire émerger des conclusions claires, en particulier sur l'emploi et les salaires. Indiqué en mars 2017, France Stratégie, un organisme rattaché à Matignon et chargé de coordonner le comité d'évaluation sur le sujet, qui établit à 100 000 le nombre d'emplois sauvegardés ou créés pour la période 2013-2015. Les dividendes ont considérablement augmenté, alors que le nombre de chômeurs, lui, n'a pratiquement pas bougé.
Donc, des cadeaux aux entreprises, oui, et des cadeaux aux actionnaires. En fait, c'est ce danger d'un moindre revenu pour l'État, puisqu'il y a abaissement de la fiscalité aux plus riches, ne permet pas de mesurer des effets sur l'emploi, comme bien sûr les médias le font souvent valoir. Il s'agit en fait de cadeaux, on pourrait dire, en pure perte. La liste des largesses fiscales en faveur du capital et des plus riches, elle est bien fournie et elle ne cesse de s'allonger. Donc en fait, les cadeaux aux plus riches accordés dès l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée représentent bien un pognon de dingue, c'est-à-dire en fait plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Et ça se mesure vraiment, puisque par exemple, à titre d'exemple, les dividendes de la BNP Paribas ont augmenté de 12% en 2018, les dividendes de très nombreuses grandes sociétés ont augmenté également. Donc la fête aux plus riches, c'est beaucoup la fête aux actionnaires, bien sûr. Et on verra dans un petit moment que c'est aussi la fête aux grands patrons.
Les entreprises du CAC 40 distribuent en proportion la plus grande part de leurs bénéfices aux actionnaires. Elles sont championnes du monde toutes catégories devant les États-Unis et le Royaume-Uni, analyse Manon Aubry, porte-parole de l'ONG Oxfam France. L'économie des entreprises du CAC 40, poursuit-elle, est tournée vers la maximisation du versement de dividendes. Paris essaie d'attirer les capitaux en promettant des sommes importantes.
Et en fait, ce bénéfice supplémentaire, pourrait-on dire, aux actionnaires, il est tellement important que, en même temps, les grands patrons des entreprises, les grands patrons des grandes entreprises, vont peu à peu être rémunérés davantage en actions. C'est-à-dire que c'est double. Ça permet que les décalages de rémunération nette en salaire en tant que tel entre les moins bien payés et les mieux payés dans une entreprise soit moindre. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant pour les grands patrons des grands groupes d'être souvent payés en actions.
En 9 ans, la part des actions dans la rémunération totale des PDG du CAC 40 est passée de 5% à 36% au détriment du salaire fixe. On peut faire l'hypothèse que les résultats pour 2018 accéléreront le processus avec la flat tax conçue par Emmanuel Macron.
La flat tax, c'est le prélèvement forfaitaire unique. C'est en effet, en vocabulaire anglo-saxon, on appelle ça flat tax puisque c'est le même prélèvement pour tous. Riches ou pauvres, tous payent la même chose. On l'a vu il y a 5 minutes.
En pourcentage. Les dirigeants des grands groupes font désormais sécession avec le reste des salariés achetés par les actionnaires pour mieux servir leurs intérêts. Les ultra-riches plus que jamais gagnants. Lors de son intervention du 15 avril 2018 sur TF1, Emmanuel Macron, questionné par les journalistes Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel, a assumé tous les cadeaux fiscaux faits aux plus aisés, tout en contestant être le président des riches. Et pourtant, les chiffres sont éloquents. Qui bénéficie le plus de ces mesures? Le journaliste Romaric Godin répond « Le grand gagnant des mesures fiscales du gouvernement est le dernier décile des ménages, autrement dit les 10% des ménages les plus riches. Ces derniers capteraient ainsi 46% des gains fiscaux promis aux ménages. Et même mieux, selon les économistes de l'Institut, c'est principalement le dernier centile, autrement dit les 1% les plus riches, composé de 280 000 ménages, qui occuperaient le haut du podium. Emmanuel Macron est bien, à commencer par les orientations prépondérantes de sa politique fiscale, le président des ultra-riches.
Et donc ce décollage des riches, on va encore en donner quelques mesures.
À quels effets aboutit ce choix de politique économique? Laissons la parole à Joseph Stiglitz, ancien conseiller économique de Bill Clinton et prix Nobel d'économie. Les revenus des 1% les plus riches n'ont cessé d'augmenter ces 40 dernières années, tandis que ceux des 90% les plus pauvres ont stagné. Les faits le prouvent, l'enrichissement des plus riches ne bénéficie qu'aux plus riches. Par ailleurs, l'argent rendu aux riches et aux entreprises n'a pas été réinvesti ni utilisé pour augmenter les salaires, mais a servi à financer des programmes de rachat d'actions, ce qui a mis de l'argent dans les poches des très riches. En bref, les politiques néolibérales rendent les riches de plus en plus riches. Rien de très étonnant à cela. Oui, mais dans quelle proportion? Les chiffres donnent le tournis. Ils sont tellement sans commune mesure avec nos dépenses quotidiennes, comptabilisées en baguettes de pain ou en plein d'essence, que l'on éprouve un mal fou à imaginer ce que ces gigantesques abstractions peuvent même représenter. Les zéros s'alignent, nous laissant pantois. Parler de déconnexion est bien en deçà de la réalité. Les premiers de cordée ont depuis longtemps quitté les sommets himalayens. Ils se sont mis en orbite. Quelques données. En France, en 2017, les 10% les plus aisés détiennent plus de la moitié des richesses nationales, quand les 50% les plus pauvres ne se partagent que 5% du gâteau. Or, ces inégalités ne cessent de se creuser. Au sommet de la pyramide, calcule l'ONG Oxfam, la richesse des milliardaires français a été multipliée par 3 en 10 ans, et 32 milliardaires français possèdent désormais autant que les 40% les plus pauvres de la population française. Parallèlement, en 20 ans, le nombre de personnes en situation de pauvreté a augmenté de 1,2 million dans le pays. Encore selon Oxfam, depuis 2009, les entreprises du CAC 40 ont reversé plus de 2/3 de leurs bénéfices à leurs actionnaires sous forme de dividendes au détriment de l'investissement productif. sans parler des travailleurs de ces groupes qui n'ont reçu que 5% du magot, alors même que ce sont eux qui produisent ces richesses. Dans son allocution du 10 décembre 2018, Emmanuel Macron a refusé, malgré les revendications portées par les Gilets jaunes, de revenir sur les cadeaux fiscaux de grande ampleur qu'il a accordés aux plus riches dès son arrivée à l'Élysée.
Voilà, bah écoutez, pour se remonter le moral, on va mettre un peu de musique.
Assaïra, saïra, saïra, le peuple en ce jour sans cesse répète. Assaïra, saïra, saïra, malgré les mutins, tout réussira. Nos ennemis confiants restent là, et nous allons chanter Alléluia. Assaïra, saïra, saïra, quand voilà jadis du cœur j'ai parlé. Comme un prophète, il prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir, on dira, ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira. Ah ça ira, ça ira, ça ira, suivant la maxime de l'évangile, ah ça ira, ça ira, ça ira, du législateur tout s'accomplira. Celui qui s'élève, on l'abaissera, celui qui s'abaisse, on l'élèvera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, le vrai catéchisme nous instruira, et l'affreux fanatisme s'éteindra, pour être à la loi docile. Tout français s'exercera, ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira malgré les mutins, tout réussira. Ah ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra, on va trop bien le nouer pour que ça se délie. Ah ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra, et dans 2000 ans on s'en souviendra. Le despotisme expirera, la liberté triomphera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ah ça ira, ça ira, ça ira, l'égalité parrainera. L'esclave autrichien le suivra, ah ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, et leur infernal clic au diable s'envolera. Ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra.
Oui, bien sûr, ça ira, mais je ne sais pas si ça ira dans le bon sens avec M. Macron. N'oublions pas que Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot sont des sociologues. Donc, ils ne se contentent pas de nous donner des faits, et en particulier des faits économiques, qui sont nécessaires absolument, mais ils nous expliquent aussi, d'un point de vue justement plus sociologique, que les mesures de cadeaux aux riches du président Macron peuvent s'expliquer, bon, pour des raisons économiques et politiques, bien sûr, mais aussi pour des raisons personnelles, par son parcours et ses fréquentations en particulier. Ces fréquentations, pas toujours clairement exposées au grand public, puisque, en fait, même si notre président est un vrai people qui fait les couvertures de magazines, on ne mesure pas toujours à quoi cela est dû. Donc, nos auteurs reviennent sur son parcours personnel pour nous expliquer, au fond, ses choix politiques et économiques.
Emmanuel Macron est embauché en septembre 2008 par François Henrot et David de Rothschild à la banque du même nom, avenue de Messine, dans le 8e arrondissement de Paris. C'est le second président de la République, après Georges Pompidou, à être passé de chez Rothschild à l'Élysée. Cette banque ouvre en effet volontiers ses portes à de hauts fonctionnaires pour profiter de leur carnet d'adresses, comme ce fut le cas de François Pérol, devenu président du directoire de la BPCE, de Sébastien Proto, un proche de Nicolas Sarkozy, ou encore de Grégoire Heuzet, ancien conseiller de Dominique de Villepin. Emmanuel Macron a démarré chez Rothschild comme directeur le 1er septembre 2008, 15 jours avant la faillite de Lehman Brothers, avec une période d'essai de 6 mois. Trois ans plus tard, le bras droit de David de Rothschild, François Henrot, l'ayant pris sous son aile, il est consacré en 2011 associé gérant de la banque. Fort de ses liens avec Peter Brabeck-Letmat, le jeune banquier conseil Nestlé dans sa négociation pour le rachat de la division.
Emmanuel Macron conseille Nestlé, oui.
Oui, c'est lui le jeune banquier.
Oui.
Dans sa négociation pour le rachat de la division nutrition infantile de l'américain Pfizer. Un deal de 9 milliards d'euros qui lui permet d'empocher 2,8 millions en 3 ans, en sus d'un salaire annuel d'environ 400 000 euros.
Le
Après
pauvre.
L'élection de François Hollande en mai 2012, Emmanuel Macron est nommé secrétaire général adjoint à l'Élysée. Ce qui n'est pas sans rappeler Nicolas Sarkozy, qui lui aussi a choisi un associé gérant de chez Rothschild, François Pérol, pour le secrétariat général de l'Élysée. Emmanuel est un précieux relais de la voix des entreprises, se réjouit alors la présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Cahuzac ?
Non, on va s'arrêter là dans un premier temps.
En août 2014, Emmanuel Macron est nommé ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique à Bercy, en remplacement d'Arnaud Montebourg, forcé à la démission par François Hollande. Le nouveau ministre n'est pas un homme politique au sens traditionnel, qui aurait été adoubé par des élections locales, régionales et nationales. Dans son parcours personnel, la stratégie d'accès aux plus hautes fonctions passe prioritairement par la technocratie et le réseautage feutré plutôt que par la démocratie et l'engagement dans le débat public. Il a estimé de façon réaliste que le soutien de mentors politiques et l'appui de milieux d'affaires étaient plus décisifs pour réunir les chances d'accéder à la mandature suprême que l'ancrage de terrain et la légitimation par les élections intermédiaires.
Oui, en fait, ce qui apparaît dans son parcours personnel, c'est vrai, jusqu'au ministère de l'économie, bien sûr, c'est encore plus vrai dans sa campagne lorsqu'il va faire campagne précisément pour être élu président de la République.
J'ai créé un mouvement sans aucune subvention publique. Chez moi, on ne vit pas du contribuable, claironnait Emmanuel Macron pendant sa campagne. Christian Eckert, qui fut son collègue en tant que ministre du budget, fait aujourd'hui entendre un autre son de cloche. Macron, révèle-t-il, a fait de son passage comme ministre de l'économie la piste d'envol de sa candidature. Le couple Macron a occupé, de 2014 à 2016, un magnifique appartement de 300 mètres carrés au 6e étage du paquebot de Bercy, avec des vues plongeantes sur la Seine. Parfait écrin pour réception mondaine. Le 6 janvier 2016, Emmanuel Macron, encore ministre de l'économie, est ovationné par plusieurs centaines de start-uppers enthousiastes réunis au Consumer Electronics Show de Las Vegas, grand rendez-vous des nouvelles technologies. Cette opération a été montée sans appel d'offres par Muriel Pénicaud, alors directrice générale de Business France, organisme public
Business France,
chargé de la promotion de l'image économique de la France à l'étranger. Emmanuel Macron a finalement annoncé sa candidature le 16 septembre 2016, 2 mois et demi après sa démission du ministère de l'économie. Il avançait bel et bien masqué depuis plusieurs mois, au nez et à la barbe de François Hollande. En mai 2016, le mouvement En Marche, créé en mars de la même année, avait commandé un sondage pour 24 960 euros à l'Institut Ipsos avec le thème suivant « Macron et les progressistes, potentiel et possibilités ». Plus de 10 millions d'euros ont ainsi été collectés auprès de particuliers, ceci selon deux modalités encadrées par la loi. 7 500 euros maximum par personne pour le parti En Marche et 4 600 euros par personne pour l'association de financement de la campagne. Ces dons font l'objet d'une réduction d'impôt de 66%. De façon générale, comme le souligne l'économiste Julia Cagé, ce dispositif d'incitation fiscale exclut de fait les 56% de foyers qui sont non imposables. Autrement dit, si vous êtes relativement aisé, au moins assez pour être assujetti à l'impôt sur le revenu, l'État vous fait cadeau des 2/3 de votre don au parti politique de votre choix. Mais sinon, c'est à vous de tout payer de votre poche. De fait, les 10% les plus riches comptent pour 53% des dons et cotisations aux partis politiques. Et sans grande surprise, les politiciens les plus à droite sont les plus gâtés. Les inégalités politiques renforcent ainsi les inégalités économiques et le pouvoir des grandes fortunes qui construisent circulairement leur légitimation. Les grandes rivières n'étant pas faites que de petits ruisseaux, les chèques de gros donateurs signés entre autres à l'occasion de dîners de fundraising ciblés représentaient à eux seuls 45% des fonds collectés par En Marche en mars 2017. Emmanuel Macron a toujours refusé de publier la liste de ses donateurs. Il est vrai que cette transparence aurait mis à mal le storytelling de sa candidature anti-système. Libre à eux de se dévoiler, mais nous, le secret fiscal nous l'interdit, a ainsi tranché Sylvain Faure, porte-parole du candidat Macron. Les occasions d'exercer ses aptitudes à la mondanité, pour qui en est pourvu, sont nombreuses. La vie mondaine est ainsi faite de variations à l'infini sur la même trame, celle des rituels dînatoires obligés et des réseaux d'interconnexion de ceux qui appartiennent à l'oligarchie. Cette structuration conviviale de la grande bourgeoisie s'étend à la sphère politique. À la faveur d'un buffet, les frais de bouche se transmuent en levée de fonds pour un candidat ami, un allié en puissance.
Oui, en fait, c'est bien ça. C'est bien un réseau, un ensemble de relations qui vont faire que M. Macron reçoit des aides légales au départ de la part d'un certain nombre de donateurs, mais on a vu que les donateurs, en fait, tiraient profit en retour quasi immédiatement de ce qu'ils avaient donné dans le financement des partis ou des candidats qui leur conviennent. Et on verra ensuite qu'il en est de même pour les cadeaux faits à un certain nombre d'entreprises qui sont très rapidement les entreprises clientes des nouveaux pouvoirs en place. Attardons-nous d'abord un petit peu avec nos auteurs sociologues sur le profil du donateur des partis En Marche et de la campagne d'Emmanuel Macron.
Le journal du dimanche du 1er décembre 2018 a eu accès à la liste de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Des 74 702 dons récoltés entre mars 2016, date de la création officielle d'En Marche, et l'élection du 7 mai 2017, ces dons ont abouti en 14 mois à une collecte de 13 008 446 000 €. Les milliers de petits dons de moins de 50 euros récoltés notamment par des paiements en ligne ne représentent que 1,7 million d'euros. Les expatriés ont donné 1,8 million à leurs champions, dont 800 000 proviennent de Grande-Bretagne et de la City financière de Londres, contre seulement 95 000 euros de Suisse. La région parisienne est en tête du palmarès de la générosité macronienne avec 7,4 millions d'euros. D'une façon générale, les ouvriers et les employés, qui représentent 52% de la population active, n'ont guère contribué à la victoire du jeune banquier par leurs dons. Une adhésion gratuite au mouvement ne règle pas le problème de fond, explique au JDD le politologue Bruno Cotresse, chercheur au CEVIPOF et co-auteur d'une enquête sur les adhérents de La République En Marche, publiée en octobre 2018 par la Fondation Terra Nova. Celle-ci montre que les adhérents de La République En Marche sont constitués de 80% de diplômés, 60% de cadres et seulement 8% d'ouvriers et d'employés, alors que ceux-ci sont majoritaires dans la population active.
Donc, on le répète un petit peu, les cadeaux sont faits aux plus riches, aux possédants, à ceux qui, en effet, peuvent, en retour, attendre des bénéfices de leur candidat quand il a été élu.
Les comptes de campagne ont toutefois été validés par le Conseil constitutionnel et par le CNCCFP, et ce, malgré les anomalies qui auraient pu faire penser à du financement déguisé.
Oui, anomalies ayant pu faire penser à du financement déguisé. En fait, on parlait ici enfin les auteurs parlaient ici, du fait qu'un certain nombre d'entreprises avaient été choisies pendant la campagne par M. Macron et ses équipes pour l'aider, bien sûr, dans son succès électoral. C'est-à-dire que des entreprises spécialisées dans les événements, des entreprises spécialisées dans la location de salles, etc., ont été choisies plutôt que d'autres, tout simplement parce qu'elles étaient dirigées par des amis du futur président. Et bien sûr, dans la mesure où les coûts pour le candidat étaient moindres, eh bien, au lendemain de l'élection, les cadeaux, entre guillemets, c'est-à-dire le choix de ces entreprises pour d'autres activités, ne tarderont pas à tomber. Mais au-delà des cadeaux à un certain nombre d'entreprises ou à certains donateurs connus, donc des choses tout à fait légales finalement, il est intéressant aussi de se pencher sur les fréquentations d'Emmanuel Macron, qui, elles aussi, bien sûr, sont légales, hein, on ne va pas l'empêcher de rencontrer des amis, mais qui sont ciblées de telle façon que le financement de son parti et surtout, ensuite, ce qu'on verra de très important, le soutien des médias, est très important pour lui. Donc, on va retrouver, disons, ce qu'on appelle des cercles chics qui sont autour du président ou que le président fréquente régulièrement. Et en particulier, on pense, suivant la terminologie anglaise, au think tank, c'est-à-dire au réseau de pensée qui existe un petit peu partout en Europe occidentale.
Le site internet du mouvement En Marche, ouvert au printemps 2016, se domicilie d'abord au 33 rue d'Anton, le Kremlin-Bicêtre, soit l'adresse de Véronique Bolhuis, compagne de Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne a été fondé par Claude Bébéard lorsqu'il était le patron du groupe d'assurance AXA. Cet institut compte, parmi ses financeurs, 80 grandes entreprises dont LVMH, Total, Vinci, SFR ou Carrefour, mais aussi des institutions bancaires, Lazare Frères, le Crédit Agricole ou la Caisse des dépôts. Une centaine de donateurs fortunés soutiennent également à titre individuel ce laboratoire d'idées creuses, dévoué à la défense de l'ordre économique dominant. L'Institut Montaigne est présidé depuis 2015 par un autre ancien patron d'AXA, Henri Delacroix de Castries, un proche de François Fillon. Macron a participé en 2014 à la conférence annuelle de ce think tank international très sélect, créé en 1954 par David Rockefeller. Après l'échec cuisant de François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle, Henri Delacroix de Castries s'est rallié à Emmanuel Macron, pour lequel il ne tarit pas d'éloges. Le soutien de ce businessman aristocrate vient démentir un peu plus la fable macronienne d'une rupture avec l'ancien monde. Aux think tanks et aux clubs s'ajoutent dans la fabrique de l'influence les cabinets de lobbying qui pullulent autour des assemblées parlementaires. À Bruxelles, par exemple. L'Interallié, créé en 1917, se présente, selon les mots de son président, Denis de Kergorlay, comme un lieu destiné à favoriser la détente, l'entente et la coopération entre les élites françaises et internationales. La sociabilité mondaine qui se déploie dans cet hôtel particulier avec salons, restaurants et divers équipements sportifs permet une forme euphémisée et déniée de la mobilisation de la classe dominante par-delà les frontières nationales. Le siècle, lieu de connivence entre journalistes et politiques. Le siècle, club d'influence fondé en 1944 par le journaliste radical-socialiste et franc-maçon Georges Bérard-Quélin, organise chaque dernier mercredi du mois un dîner avec les locaux du Cercle de l'Union Interalliée, rue du Faubourg-Saint-Honoré, dans le 8e arrondissement de Paris. Les élites s'y côtoient par-delà les clivages droite-gauche. Les dîners du siècle, c'est aussi l'apprentissage d'une certaine conscience de classe au-delà des connaissances anciennes, des insertions professionnelles diverses, des réseaux auxquels on appartient déjà. L'entre-soi, convivial dans des lieux prestigieux qui symbolisent la richesse et le pouvoir, crée un sentiment d'excellence et de pouvoir, un sentiment de supériorité à l'égard du reste de la société, bien à même d'ancrer l'idée d'une appartenance aux élites et aux sommets. Il s'agit d'intégrer l'idée d'une identité commune, celle de la classe dominante, qui rassemble par-delà les différences. Le 30 mai 2016, Monique est invitée...
Monique, c'est bien sûr Monique Pinson-Charlot, un des auteurs.
Est invitée sur la chaîne parlementaire, LCP, pour l'émission quotidienne « Ça vous regarde », animée par le journaliste Arnaud Ardouin, avec notamment comme invités Benjamin Griveaux et François Patria, deux piliers de la Macronie naissante. Fort de sa nouvelle foi en l'avenir, François Patria renvoie la sociologue dans les ornières du passé, du conservatisme et de la ringardise. « Pour vous, madame, réussir est un péché. Pourquoi autant de haine contre ceux qui veulent réussir ? De plus, je trouve honteux que vous présentiez Emmanuel Macron sous la seule particularité d'être ancien banquier de chez Rothschild. » Et de conclure avec cette formule, « Emmanuel Macron va loin car il voit loin. »
Oui, donc en fait, c'est bien la pierre de touche, on pourrait dire, de la conscience de classe, mais de classe favorisée, de ceux qui entourent Emmanuel Macron. La formule « réussir, c'est un péché », qui est justement le reproche que fait un de ses collaborateurs, comme caractéristique donnée par notre sociologue, Monique Pinson-Charlot. En fait, ce « réussir, c'est un péché », c'est bien le mot d'ordre que vont nier précisément tous ceux qui entourent Emmanuel Macron. L'entourage du président est décrit dans le chapitre suivant que les auteurs consacrent à la bourgeoisie du Touquet. Touquet qui, enfin la station disons du Touquet où Madame Macron avait une propriété de famille, là évidemment largement ouverte à son président de mari. Donc la station du Touquet, c'est la station du Tout Paris au bain de mer, absolument comme au début du XXe siècle. Et ce Tout Paris médiatique que le président rencontre pendant ses week-ends, de façon plus grave, il le rencontre aussi de façon très suivie par les relations qu'il entretient précisément avec l'ensemble des médias. On sait depuis longtemps maintenant que les grands médias sont aux mains du grand capital. Mais avec Macron, on se rend mieux compte que ces grands médias sont précisément à son service.
À peine 3 ans avant la présidentielle, le visage d'Emmanuel Macron était inconnu du grand public. On a assisté à l'une des opérations de construction de notoriété les plus fulgurantes de l'histoire politique française. Les médias dominants ont joué un rôle essentiel dans cette blitzkrieg de l'image. Sans leur appui, sans cette complaisance, il n'aurait pas été possible de propager de façon aussi accélérée le récit de pseudo-disruption qui formait l'axe stratégique de cette campagne de communication. Que tout change pour que rien ne change. Le 21 février 2017, Marianne a ainsi calculé qu'en 4 mois, BFM TV avait retransmis 426 minutes de discours de Macron au cours de ses meetings contre 440 minutes pour ses 4 principaux adversaires réunis. Dans son ascension, Emmanuel Macron a pu compter sur l'appui d'importants patrons de presse. En janvier 2017, l'un des 3 principaux actionnaires du quotidien Le Monde, Pierre Berger, décédé depuis, annonce sur son compte Twitter apporter son soutien sans la moindre restriction à Emmanuel Macron. Pourquoi je vote Emmanuel Macron par Bernard Arnault ? Le 5 mai 2017, Bernard Arnault, PDG de LVMH et propriétaire des Échos, publie dans les Échos une tribune pour appeler à voter Macron. Extrait. Les raisons d'espérer sont simples. Le programme d'Emmanuel Macron est bâti sur la conviction que l'entreprise privée constitue le seul levier efficace de création durable, saine et massive d'emplois en France.
Oui, enfin, on peut opposer ça au fait que M. Bernard Arnault est quand même le responsable massif également de la suppression d'emplois dans toutes les entreprises du nord de la France, où il a débauché des milliers de personnes, puisque ce n'était plus rentable de faire du textile en France.
En janvier 2017, Emmanuel Macron est en une du magasin Challenge, dont le propriétaire Claude Perdriel en fera l'invité vedette le 13 avril 2017 du second sommet des start-up organisé par cet hebdomadaire. Directeurs de rédaction et éditorialistes ne sont pas en reste. À la question « Pourquoi Macron ?», Mathieu Croissandeau, alors à la tête de l'Obs, répondait ainsi dans son éditorial du 20 avril 2017 « Il a su mieux que personne dans cette campagne incarner à la fois un projet, un élan, un espoir de renouvellement et une volonté de rassemblement. Emboîtant le pas à Challenge, l'Express et Le Point ont chacun multiplié des couvertures consacrées aux jeunes candidats. Jean-Michel Descugis, Pauline Guénard et Marc Le Plongeon, Mimi Grasset, Paris 2018. Les auteurs ont comptabilisé 29 unes pour les Macron pendant la campagne, contre 16 pour Fillon et 11 pour Le Pen.
Donc c'est comme ça qu'en effet, on croise économie et people. C'est vrai que sans arrêt, les grands médias vont relayer les discours de Macron. Bernard Arnault, dont on a parlé tout à l'heure, il est en fait propriétaire des Échos. Il est aussi propriétaire du Parisien. Et ce patron du luxe exerce aussi, en réalité, une influence beaucoup plus large sur la presse française par l'intermédiaire des annonces publicitaires de son groupe LVMH. Évidemment, là où on met des annonces LVMH, ça fait du financement. Et il est bien évident que tout cela est complètement interconnecté. Les patrons des entreprises ou les patrons de presse, si ce ne sont pas les mêmes, ce sont presque les mêmes, ou du moins ce sont leurs adjoints qui, en effet, peu à peu, vont faire passer leur message de façon plus ou moins visible. Au-delà du poids des médias, donc, qu'on a dénoncé abondamment, mais qui est ici clairement démontré, ce qu'on peut souligner dans la caste au pouvoir et dans l'analyse du personnel politique de l'oligarchie, c'est en effet la fracture sociale qui se dessine. Cette fracture sociale, elle est relativement évidente puisque les élections sont, disons, comptent de plus en plus d'abstention. Il y a de plus en plus de gens qui se désolidarisent, en fait, de l'expression électorale. Mais même dans cette expression électorale, eh bien, on voit que l'électorat de M. Macron, ce n'est pas l'électorat populaire, comme on aurait pu s'en douter, mais comme il avait encore plaisir à le dire.
En juillet 2017, François Ruffin, nouvel élu de la France Insoumise, a fait circuler un graphique sur la composition socio-professionnelle de la nouvelle Assemblée nationale. Celle-ci penche très nettement du côté des cadres et des professions intellectuelles supérieures, qui représentent 76% des députés, alors que cette catégorie socio-professionnelle ne concerne en 2017 que 18%, selon l'INSEE, de la population active.
Oui, on continue à lire des chiffres et à s'appuyer sur le fait que, au-delà de son électorat, Macron met aussi en place un gouvernement de riches.
Emmanuel Macron est d'emblée en 2017 entouré d'un premier gouvernement de riches avec 15 ministres ou secrétaires d'État millionnaires sur 32.
Eh oui. Et on continue avec en particulier l'appartenance de classe qui caractérise le cercle du pouvoir du président Macron.
L'appartenance de classe ne se définit pas par la seule richesse économique. Outre les biens, il y a les liens. Les femmes et les hommes qui disposent aujourd'hui du pouvoir politique, bien loin de l'ancienne figure des serviteurs de l'État, entretiennent des relations étroites avec une myriade d'intérêts privés dont ils sont trop souvent les obligés. Avant de devenir Premier ministre, Édouard Philippe a été directeur des affaires publiques, autrement dit responsable du lobbying, du géant du nucléaire Areva de 2007 à 2010. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, a exercé des fonctions de lobbyiste chez Unibail Rodamco. La secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson est une ancienne haute responsable de Veolia. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, exerçait auparavant les fonctions de directrice des ressources humaines chez Danone. Quant à son directeur de cabinet, Antoine Fouché, en charge du social, il officiait auparavant comme directeur général adjoint du MEDEF. Les interconnexions de ce personnel technocratique sont tellement denses entre fonctions publiques et management privé que les conflits d'intérêts sont la règle plutôt que l'exception. Lorsqu'ils deviennent trop flagrants, de petits scandales éclatent dans la presse, mais l'arbre cache la forêt.
Alors, la forêt, bah oui, la forêt, en fait, c'est bien la permanence du système, de ce système de connexion entre le pouvoir et la finance, entre, finalement, tous ceux qui possèdent. Donc, sous les ors de la République, que M. Macron apprécie tant, il y a bien aussi les appartements du roi, le corps du roi, le souci de l'apparence, la référence au people, les splendeurs qu'on trouve dans le palais de l'Élysée, bien sûr, mais qu'on va, je ne sais pas si on peut dire, exporter au fort de Brégançon en faisant construire une piscine pour que le président puisse se baigner sans se montrer au peuple. Il y a aussi la résidence de la Lanterne, qui est traditionnellement une résidence secondaire du Premier ministre et qui, depuis peu, a été ramenée au profit de la présidence de la République. Donc, c'est Nicolas Sarkozy qui avait décidé de faire bénéficier le président de la République de la résidence de la Lanterne. Cette résidence ayant depuis été très largement utilisée par Emmanuel Macron. En fait, Carla Bruni et Nicolas Sarkozy avaient célébré leurs noces avec une cinquantaine d'invités en 2008. Emmanuel et Brigitte Macron, ils passent leur week-end chaque fois que possible en invitant de nombreuses personnes autour d'eux et par exemple en échange de bons procédés, disons, en invitant des personnes qui, bien sûr, après coup, peuvent les faire bénéficier d'avantages sonnants et trébuchants. Le mépris de classe d'Emmanuel Macron, ce jeune homme qui se prend pour la dame de fer, est totalement assumé. À la limite, les gens du peuple ne sont rien. Et pire, ils ne représentent que des coûts et des charges. Donc, renversant l'adage de Robin des Bois, la politique d'Emmanuel Macron, c'est bien de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Prendre aux pauvres pour donner aux riches, être le président des ultra-riches, c'est bien la même chose. Allons-y maintenant pour notre deuxième musique révolutionnaire, mais hélas, ça risque de pas trop changer de choses aujourd'hui.
Madame Veto avait promis, de faire égorger tout Paris, Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, d'être fidèle à son pays, Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Antoinette avait résolu, de nous faire tomber sur le cul, Mais le coup a manqué, elle a le nez cassé. Dansons la Carmagnole, vive le son, Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissait peu notre valeur, connaissait peu notre valeur. Va Louis Gros Paour du temple dans la tour. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu sur nos amis. Mais comme ils ont sauté, comme ils ont tous dansé. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Quand Antoinette vit la tour, quand Antoinette vit la tour, elle voulut faire demi-tour, elle voulut faire demi-tour. Elle avait mal au cœur de se voir sans honneur. Dansons la Carmagnole, vive le son.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.